5, 4, 3, 2, 1.
De Lilith Martinez, vous êtes sur la piste d'atterrissage.
Et oui, mais quel moment incroyable!
Ça fait 10 ans qu'elles prennent les ondes hertziennes.
Elles nous arrivent tout droit de Radio Canu.
Toute la galaxie ne capte pas le 102.2. Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes!
Lilith, réveille-toi là. Lilith, c'est 17h. Lilith! C'est 17h, c'est l'émission féministe, faut qu'on prenne le micro.
Bonjour et bienvenue sur Lilith, Martine et les autres sur Radio Canu 102.2 FM. Aujourd'hui, nous avons en plateau des membres des collectifs Sochi et Déracinés. Bonjour à vous et merci d'être venus.
Bonjour.
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 Vous nous présenterez vos collectifs et nous discuterons ensemble à partir de cette phrase. Vous avez essayé d'effacer nos traces, mais elles sont là, existent et résistent. Que ce soit dans le lien de la France avec la traître négrière, ses comptoirs en Afrique et en Asie, puis dans la colonisation, l'histoire officielle a été réécrite pour hiérarchiser les populations, invisibiliser et se réapproprier connaissances, langues, résistances de peuples que la France, dans une dynamique européenne, a tenté de soumettre. À notre époque et dans les luttes actuelles, il y a tout un travail de mémoire à faire, de transmission, tant pour se souvenir, être plus forte et se renforcer grâce aux luttes passées pour continuer, les luttes actuelles bien sûr. Les femmes, les gouines, les trans, racisées dans tout ça, sont souvent oubliées, minorisées, niées. Comme le montre par exemple l'exposition « 30 ans d'histoire des mouvements de femmes de l'immigration en France » portée par l'Association des Tunisiens de France qui a réuni plus de 240 documents, affiches, photographies, tracts dont la plupart n'avaient jamais fait l'objet d'une présentation globale. À travers plusieurs périodes, cette expo a réussi l'objectif de visibiliser et montrer les luttes politiques auxquelles ont appartenu femmes, gouines et transracisées. Le temps des pionnières, de 70 à 81, avec des collectifs créés par des exilés, des militantes politiques issues de gauche ou d'extrême gauche, des étudiantes dont l'inspiration venait du féminisme, des luttes des pays d'origine, avec comme objectif politique la solidarité internationale contre les dictatures et en faveur des droits des femmes. Par exemple, l'Association des femmes marocaines en 72, la coordination des femmes noires et le mouvement des femmes noires en 76, le groupe Femmes Algériennes en 77 et certainement il devait y en avoir beaucoup d'autres. Puis, il y a l'essor des mouvements associatifs de femmes de 81 à 92, jalonnés de luttes collectives comme des luttes pour la régularisation des sans-papiers et sans-papiers, les marches pour l'égalité, la lutte contre les expulsions, contre la montée de l'extrême droite et les menaces sur les droits des étrangères et étrangers. Elles s'organisent régulièrement de façon autonome, s'engagent sur le terrain, dans les villes et les quartiers, restent toujours avec la vue de la solidarité internationale et l'action sur le thème des femmes exilées. Et une dernière période plus actuelle, de 92 à 2003, avec des luttes sur la remise en cause du droit d'asile, contre le chômage, la persistance des discriminations. Donc ça, c'était l'expo qui balayait ces trois périodes. Et nous, on nomme en 2004 que de nombreux collectifs se sont montés contre la loi Stasi, interdisant le port du voile dans les écoles, qui malheureusement depuis a été élargie par les gouvernements successifs à d'autres domaines de la vie, comme pour les accompagnantes de sorties scolaires, les crèches, et en dehors du cadre de loi, les femmes portant le voile ont vu les discriminations à leur encontre augmenter. Bien sûr, cette expo... ça montre pas tout ce que le domaine dans lequel les femmes, les gouines et transracisées ont lutté et luttent encore. Et c'est ce que nous allons donc découvrir ensemble pendant cette heure.
Breaking down the door.
bienvenue sur Radio Canus en 2.2. Vous êtes bien sur Lilith, Martine et les autres de 17h à 18h. Et on va aujourd'hui parler, on a décidé de partir un peu d'une question de comment les deux collectifs, donc Sochi et les Déracinés, vous vous inscrivez en fait dans une continuité historique des mouvements d'immigration en visibilisant les luttes féministes. Et donc déjà la première question, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, alors bonjour, je suis Elsa, membre du collectif afroféministe Sochi. Nous sommes un collectif intersectionnel qui comprend des femmes noires afrodescendantes et métisses. Nous sommes un collectif non mixte. Nous avons... En fait, le collectif s'est formé il y a un an, donc on a tout juste un an. Ça a été une formation assez spontanée suite à la projection, première projection du film Ouvrir la voie de la réalisatrice Amandine Gay qui avait eu lieu à Lyon 2. Et suite à cette projection, il y a eu un rassemblement spontané en collectif de femmes noires et afrodescendantes.
Merci Sochi. On a aussi le collectif des Déracinés.
Bonjour, je suis l'agent tropico du collectif des Déracinés.
Bonjour, agent tropical alors.
Tropicana.
Alors la question c'était pourquoi avez-vous créé ce collectif ?
Alors, donc je présente le collectif des Déracinés. On est un collectif en non-mixité racisée, donc uniquement que des non-blancs. On est des féministes décoloniaux, antiracistes, anticolonialistes et queer, donc LGBT. Comment on s'est créé avant, essentiellement, on est étudiants avant tout. On est étudiants sur la fac Lyon 2. On a commencé à vouloir militer. Et on a milité dans les milieux dits de gauche, etc. Et finalement, on s'est rendu compte que dans les milieux de gauche, il y avait de la misogynie et du racisme, et la plupart du temps, les deux en même temps. Parce qu'on est, on a des afro-descendants, on est des arabo-descendants, on a des asio-descendants. Donc on s'est rendu compte qu'on était victime de ce qu'on appelle l'exotisation. Qu'est-ce que c'est l'exotisation ? C'est une fétichisation, la part du temps, des femmes racisées de manière sexuelle, érotique, etc., assez malsaine. Et en fait, on était relayés au second plan et on s'est dit ben, pourquoi on n'irait pas lutter ensemble ? Puisque finalement, on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes avec la société en commun et qu'on n'avait pas besoin des autres pour nous prendre la main, pour nous dire comment lutter. Donc on a fini par s'organiser ensemble. Et voilà, on a créé ce collectif il y a un an.
Tu peux nous dire un peu des exemples d'exotisation qu'on peut le voir en fait au quotidien, par exemple ?
Les exemples d'exotisation, par exemple, il y a juste les mots. Dans les mots, il y a le mot beurette. Genre toute l'image de la beurette, de la femme arabe des cités qui boit de la chicha, qui est libérée pour le regard des hommes blancs hétéronormés, cis la plupart du temps, avec qui ils vont aller coucher avec et tout. On a aussi la principale source des... Les principales victimes d'exotisation, en fait, sont aussi les femmes asiatiques, qu'on présente comme soumises, avec le concept des geishas, qui est... Les geishas existent dans la vraie vie, mais dans l'inconscient, la manière dont on voit des geishas et tout, ce sont des prostituées de luxe qui jouent une sorte de sitar japonaise, j'ai oublié le nom... La part du temps, finalement, ce n'est pas ce qu'est une geisha dans la vraie vie. Il y a aussi l'exotisation des femmes noires. Je sais pas, peut-être que Sochi pourra me dire aussi si j'ai raison ou non. C'est quand on regarde par exemple les clips ou dans les films et tout, on a le concept de ce qu'on appelle aux États-Unis la Jézabel. La Jézabel, c'est la femme noire sensuelle, sexy.
Hypersexualisé
et tout, donc il y a quasiment un nom pour ça, qui vient de la Bible, qui représente en fait ce stéréotype de femme noire ultra sexualisée, sexy, genre la panthère noire, etc. L'exotisation et l'animalisation vont de pair la plupart du temps.
Ok, donc nous on a créé notre collectif aussi pour... pour essayer de lutter de manière intersectionnelle. C'est-à-dire qu'on prend en compte en fait toutes les spécificités qui sont à l'intersection des oppressions qui sont produites par le système sociétal occidental. Donc, en gros, on lutte à la fois contre le racisme, contre l'impérialisme et contre le patriarcat. Donc le patriarcat qui est produit par la société blanche, mais aussi le patriarcat qui est produit aussi par de manière intracommunautaire dans nos communautés, des diasporas afro-caribéennes. On lutte également contre l'homophobie, la transphobie, le capitalisme, l'islamophobie, le validisme, parce qu'on considère que toutes les femmes noires, on souhaite développer une solidarité politique entre toutes les femmes noires, afrodescendantes et métisses, issues des diasporas africaines, caribéennes, de l'océan Indien.
Merci. On a oublié de vous demander pourquoi Sochi ?
Alors bonsoir, donc je suis Ronde du collectif Sochi. Alors Sochi, c'est le nom en fait de celle qui a été baptisée par les Hollandais Saartje Batman, souvent connue aussi sous le nom de Vénus Hottentot, en fait qui dont la vie pour nous semblait cristalliser tout ce contre quoi en fait on se bat. Donc alors Sochi en fait a eu, donc on a parlé d'exotisation tout à l'heure, de fétichisation du fait en fait de sa morphologie, on va dire pas commune en tout cas pour les occidentaux. Elle a été l'objet d'une curiosité, d'une convoitise malsaine, et elle a été déportée, hein, on peut le dire, en Occident, et elle a connu une vie où on l'a prostituée, on l'a animalisée. Donc une vie très très difficile, faite de douleurs, qui cristallise en fait tout l'imaginaire occidental sur les femmes noires, notamment sur le fait que la femme, alors là entre guillemets, hein, femme africaine, qui était pensée comme une sorte d'allégorie du continent africain qu'il fallait prendre. D'ailleurs, je crois que c'est Joseph Conrad dans Au cœur des ténèbres, il y a un passage où il décrit vraiment la pénétration de l'Afrique, et c'est en fait une allégorie d'un viol aussi. Donc il a été dénié à Sochi une capacité d'agir, notamment son intelligence, sa capacité à parler plusieurs langues. Et donc, fort de ça, nous, de cette histoire-là, du peu qu'on sait de cette histoire, parce qu'il y a encore du travail à faire sur l'histoire de Sochi, on s'est dit qu'on se reconnaissait dans ce parcours qui était douloureux, mais aussi puissant. C'est-à-dire que, malgré le fait qu'on ait voulu tuer sa capacité d'agir, en fait, nous, on perçoit la puissance de la capacité d'agir de Sochi, qui a dit non plusieurs fois, même si d'ailleurs on le voit un peu dans le film d'Abdelatif Kechiche, hein, La Vénus Noire. Donc il s'agit pour nous en fait de situer notre démarche dans le prolongement des luttes alors individuelles comme collectives qui visent l'autodétermination des femmes noires, une réappropriation des narrations et des imaginaires. On veut dire notre histoire, on veut dire nos expériences, on veut imposer leur légitimité, parce qu'il ne s'agit pas de demander qu'on nous la donne, on veut l'imposer. Il s'agit donc d'élargir les voies tracées par les ascendantes pour mêler nos voix et nos consciences aux leurs.
Merci. On va faire une petite pause musicale avec une afro-américaine, Lauryn Hill.
I wrote these words for everyone. philosophy, possibly speak tongues. Beat drums, Abyssinian, street Baptist, rap this and violin it. From the beginning, my practice extending across the atlas. I begat this, flipping it together on a dirty mattress. You can't match this, rapper slash actress. More powerful than two Cleopatras. Bomb graffiti on the tomb of Nefertiti. MCs ain't ready to take it to the Serengeti. My rhymes is heavy, like the mind of Sister Betty. El Boogie spars with stars and constellations. Then came down for a little conversation. Adjacent to the king, fear no human being. Roll with cherubims to Nassau Coliseum. Now hear this mixture, where hip-hop meets scripture. Develop a negative into a positive picture.
Now everything, is everything.
Sometimes it seems,
sometimes it seems,
we'll touch that dream,
we'll touch that
but
dream,
come slow and not at all,
they come slow, you know what I mean?
And the ones on top,
the ones on top,
won't make it stop,
won't make it stop,
so convinced that they might fall,
not for everybody,
let's love ourselves and we can't fail.
Vous êtes toujours sur Lilith, Martine et les autres sur Radio Canu 102.2 FM et on est avec Sochi et Déraciné.
Oui, alors avant de commencer l'émission en détail, on voulait dédier cette émission à Marielle Franco, qui est une femme noire, qui était une femme noire lesbienne de l'État de Rio, sociologue, une activiste qui luttait en faveur des femmes noires et des habitants des favelas. Elle a dénoncé les violences policières dans l'État de Rio. Elle luttait de manière très active et était devenue dérangeante. Elle a été assassinée mercredi de 5 balles dans la tête, de manière très violente. C'était très violent, avec son chauffeur également qui a été assassiné. Elle sortait d'une table ronde qui était dédiée aux femmes noires et on voulait lui en rendre hommage aujourd'hui dans cette émission, parce que et dénoncer aussi cet assassinat qui est ignoble. Et il y aura un rassemblement samedi 17 mars à Paris, lors de la marche des solidarités. Il y aura un cortège qui sera dédié à Marielle Franco. Donc je vous invite tous et toutes à vous y rendre pour réclamer justice pour Marielle Franco.
Le mieux, c'est ceux dont on ignore même l'existence. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire le jeu des petits sondages comme j'ai fait tout à l'heure. J'aimerais simplement qu'en même temps que je vous pose des questions et des énonciations, vous réfléchissiez aux réponses. Première question, combien d'entre vous savent que Zadig de Voltaire, un des grands classiques de la philosophie et de la littérature des Lumières, est directement inspiré du Coran ? Vous voyez, c'est Sourate la caverne. Directement inspiré. Si je vous disais qu'Alexandre Dumas, l'un des plus grands romanciers du 19e siècle en France, était noir. Il a écrit Les Trois Mousquetaires, il a écrit Le Comte de Monte Cristo. On continue ? Je vais prendre d'autres domaines. Si je prends le domaine historique, combien d'entre vous savent qu'il était interdit d'importer et de commercer des esclaves noirs musulmans ? Parce qu'ils étaient considérés comme potentiellement trop subversifs et trop révolutionnaires. Combien d'entre vous savent que l'empire le plus grand que ce monde n'ait jamais porté, c'est l'empire de Gengis Khan ? C'est 4 fois celui d'Alexandre le Grand. c'est deux fois l'Empire romain. C'est 32 millions de mètres carrés au XIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on sait de cet empire, au fait ? Combien d'entre vous savent que Ludwig van Beethoven avait une mère qui était arabo-musulmane, probablement noire ? Beethoven ? Le plus grand musicien d'Ota, le plus grand musicien classique qui ait jamais existé ? Ok, là je commence à vous intéresser. Si à ces questions-là, à la plupart de ces questions, vous ne connaissiez pas les réponses, c'est précisément que l'épistémicide a réussi. C'est la mort silencieuse des autres formes de science, de culture, de savoir, d'apport qui ont pu exister pour une seule domination. Un seul type de science, un seul type de savoir qui est considéré comme légitime. Et là, vous avez vu, pas de marteau-piqueur, pas de barbu avec des kalachnikovs, pas de masse. Non, non. Juste un livre d'histoire. Et c'est le crime parfait. Parce qu'en fait, c'était le deuxième objectif qu'on avait pris tout à l'heure ensemble. C'était que je voulais que vous compreniez que vous avez tous subi et que vous subissez tous des épistémicides. Vous êtes tous témoins de ce crime parfait. Absolument tous, sans aucune exception. Et qui en sont les victimes ? Toutes les sciences non occidentales. Pourtant, on ne se méfie pas d'un livre.
Est-ce que tu peux nous présenter de qui était l'extrait ?
S'appelle Fatima Kemilat, c'est ce qu'on appelle un TEDx. Et elle parle en fait de la notion d'épistémicide, et là c'est la notion d'épistémicide historique, c'est comment on invisibilise en fait les personnes dans l'histoire en donnant seulement lieu en fait à. En redonnant ce nom en fait l'histoire aux parties en fait dominantes et qui crée l'histoire. C'est toujours le même principe. Qui crée l'histoire pour donner à voir qui, etc. Et donc cette émission, nous, c'était quand même vraiment aussi pour donner à voir ce côté de visibilité, de non-demande de légitimité, en fait, de la visibilité. Et donc maintenant, on va discuter un peu autour de cette notion-là, avec les deux collectifs, pour comprendre pour vous, qu'est-ce que ça vous fait penser, cette notion d'épistémicide un peu historique par rapport aux luttes féministes.
Moi, c'est juste que parmi les exemples et tout, ça m'a rappelé l'exemple de la lutte haïtienne, de l'indépendance haïtienne, que... En fait, on n'étudie pas que Haïti a réussi à se débarrasser des Français, a réussi à battre Napoléon, grâce à la science et à la technique du vaudun, donc du vaudou, qui a été ensuite diabolisé avec tous les films, etc., comme de la sorcellerie. Mais en fait, c'était une religion, science, des plantes et des esprits. Et en fait... Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, beaucoup de femmes ont participé à la révolution haïtienne. Par exemple, Toussaint Louverture, il a été entraîné par une femme de la tribu des Fons, je crois, au Bénin, qui avait genre... C'était eux qui avaient, je crois, les trails célèbres Amazon du Dahomey. C'est grâce à elle qu'il a réussi à combattre et diriger une armée, et surtout, c'est grâce aux femmes qui étaient les guérisseuses, alias sorcières et tout. En fait, ils avaient utilisé des techniques pour quasiment empoisonner la plupart des grandes maisons françaises qui étaient là à l'époque. Ils avaient réussi, je crois que 30 personnes avaient réussi à empoisonner 7000 propriétaires terriens, ce qui a permis de faire plus rapidement la révolution.
Moi, j'aimerais juste qu'on redéfinisse épistémicide, d'où ça vient, parce que épisté, c'est un peu des mots qui sont un peu compliqués, juste pour que nos auditrices et nos auditeurs situent bien, en fait, juste
alors...
le terme. Merci.
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors,
moi, je veux bien essayer, peut-être, de définir à partir de la posture qu'on a soutenue sur cette notion-là. Et du coup, Elsa va donner des exemples plus précis. Il s'agit en fait d'occulter un savoir, une expérience, une manière de voir le monde, ou alors de se la réapproprier sans toutefois, j'ai envie de dire, rendre hommage aux personnes qui sont à l'origine de cette expérience, de ce savoir ou de cette manière de voir du monde. Donc, si on devait vraiment en une phrase, c'est vraiment une manière soit d'occulter, soit de se réapproprier un savoir, une manière de voir du monde, une expérience qui n'est pas nôtre et à notre propre profit. Voilà.
Et Cid, c'est vraiment l'idée de tuer, c'est comme homicide.
Exactement, c'est ça. Et Elsa va vous donner quelques exemples, notamment avec le phénomène MeToo et d'autres...
Oui, tout à fait. On voit aussi dans les luttes afro-féministes que on a tendance à beaucoup à invisibiliser les combats des femmes noires. Et c'est aussi l'exemple de MeToo est très parlant parce que dans l'actualité on en a beaucoup parlé. Ça a fait un peu le tour des réseaux sociaux avec le hashtag MeToo pour dénoncer les violences sexuelles envers les femmes et la culture du viol. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le mouvement MeToo a été lancé à l'origine en 2007 par une afro-américaine qui s'appelle Tarana Burke et qui avait lancé la campagne MeToo pour dénoncer les violences sexuelles à l'encontre des jeunes filles noires qui vivaient dans les ghettos afro-américains. Et à l'époque, quand elle avait lancé ce mouvement, personne ne s'y intéressait. Elle n'avait pas reçu le soutien des mouvements féministes mainstream. Mais pour elle, c'était, elle avait lancé ça pour lancer une chaîne de solidarité pour les victimes d'agressions sexuelles, parce qu'elle avait elle-même été victime d'abus sexuels et elle voulait répondre à une petite fille de 13 ans qui s'était confiée à elle, et sur le moment elle n'avait pas su vraiment lui apporter de l'aide. Mais Tarana Burke, c'est une femme qui travaille depuis longtemps à transmettre des notions de santé, de bien-être aux jeunes femmes afro-américaines. Depuis 2006, elle avait un programme dédié à ça. Et quand le mouvement MeToo a été généralisé de partout sur Internet, sur la toile, ça a été seulement en 2017. Donc 10 ans après, en fait, et ça a été rendu visible parce que une femme blanche célèbre, Alyssa Milano, une actrice, avait voulu lancer ce hashtag, mais sans vraiment faire référence à Tarana Burke. Donc en fait, on voit que c'est parce que la sphère du monde médiatique, de l'industrie cinématographique, du monde politique s'est emparée de ce sujet-là, que ça a été rendu visible. Et que quand c'était une femme qui parlait des ghettos afro-américains et des jeunes filles noires, tout le monde s'en foutait, quoi. Voilà.
Et par exemple aussi l'histoire des sœurs Nardal, par exemple.
Oui, tout à fait. Les sœurs Nardal, donc bon, là on va remonter dans le temps. C'était au début du XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres. Il y a eu un mouvement philosophique, littéraire qui est assez connu. Donc c'est le mouvement de la négritude qui a été porté par Aimé Césaire et d'autres intellectuels. Et en fait, ce qu'on sait moins, c'est que le mouvement a été les bases de ce mouvement-là ont été jetées par les sœurs Nardal, donc Jeanne et Paulette Nardal. Paulette Nardal, qui avait été la première femme noire à être entrée à la Sorbonne et qui tenait des salons littéraires et qui avait lancé une émulation intellectuelle, un mouvement littéraire. Elle avait lancé les bases, quoi. Et tout ça a été un peu occulté dans les écrits, dans les textes et la manière dont on a raconté ce mouvement qui était la négritude. Ouais.
D'ailleurs, il me semble aussi que la Revue Noire a été créée aussi par Paulette Nardal.
Voilà, tout à fait. C'est elle qui avait créé la Revue Noire. C'est elle qui avait en fait créé les conditions pour que la négritude émerge.
Wire. I'm a Latina.
bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2 avec Lilith, Martine et les autres. Et on continue donc autour de l'épistémicide et plutôt au niveau de... par rapport à la présence des femmes racisées au sein du MLF et par rapport aussi à leur hymne qui est assez crucial et qui a vraiment mis en place une fracture en fait à l'intérieur de ça. Est-ce qu'il y en a eu... Est-ce qu'il y a un des deux collectifs qui veut un peu expliquer ça ? Au niveau de l'histoire des suffragettes et aussi le discours négrophobe par rapport à, par rapport au, alors, au chant en fait qui était dit.
Alors deux choses sur la question du MLF. En fait, plus que de parler du MLF qui date des années 70, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fin des années 70, il y a un collectif qui se crée de femmes noires, qui se crée à côté, qui est la coordination des femmes noires, qui montre bien, en fait, la création de ce collectif montre bien que il y a des biais dans la manière dont le MLF s'est constitué. Il y a des biais dans le discours et la lutte que porte le MLF. Et je vais vous lire juste un document, le seul document d'archives, en tout cas à ma connaissance, qui est de la coordination des femmes noires, qui disent qu'à partir de la confrontation de nos vécus en tant que femmes et en tant que noires, nous avons pris conscience que l'histoire des luttes dans nos pays et dans l'immigration est une histoire dans laquelle nous sommes niées, falsifiées. Donc ça montre bien que, alors elles ne font pas explicitement référence au MLF, mais quand on sait que c'est la même période, on voit bien que les femmes noires avaient conscience que, en fait, la lutte des féministes blanches, quelque part, ne les concernait pas parce qu'elles devaient articuler plusieurs luttes, le sexisme, le racisme, la perpétuation du système colonial dans leur pays d'origine ou dans leur territoire d'origine. Et donc, ce n'était pas du tout à l'ordre du jour du MLF. Et donc, avec notamment l'hymne, si on reprend l'hymne, je crois qu'à un moment donné, elles disent qu'elles sont des esclaves de mémoire.
Levons-nous, femmes esclaves.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que jusqu'à présent, quand on discute avec certaines femmes du MLF, elles ne voient pas en quoi c'est problématique. Des femmes blanches esclaves, jusqu'à preuve du contraire, elles n'ont jamais été déportées pour aller travailler dans des champs de coton ou de canne à sucre. Enfin, ça, si ça existe, j'aimerais bien qu'on me le montre. Donc à un moment donné, il faut peut-être aussi être capable d'entendre qu'on est problématique et être capable de, comment dire, de faire, je ne sais pas si c'est son meilleur coup, mais en tout cas, de faire une sorte d'adjournamento et de reconnaître que voilà, à un moment donné, on a commis des erreurs et d'essayer de les réparer au mieux. Voilà.
Puis on voit aussi les bases aussi du féminisme blanc, qui est le féminisme un peu mainstream, qu'il y a une histoire derrière tout ça. D'ailleurs, le féminisme mainstream, il est l'héritier des mouvements des suffragettes, qui étaient des mouvements aussi racistes. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, l'argumentation des suffragettes américaines qui voulaient obtenir le droit de vote était qu'on les mettait au même niveau que les fous et que les négros. Donc on a vraiment une négrophobie qui était ancrée dans les féministes du dernier siècle. On sait aussi que pendant l'esclavage, il y avait des femmes qui étaient féministes, comme par exemple sur l'île de la Réunion, il y avait Madame Desbassin, qui est une femme très puissante sur l'île de la Réunion, mais c'était également la plus grande propriétaire d'esclaves. Elle possédait énormément d'esclaves, et pourtant c'était une figure féministe. Donc c'est important de voir qu'il y a un féminisme blanc qui est dominant, mainstream, et qui s'inscrit dans une histoire. Aujourd'hui, ce qu'on reproche au féminisme blanc, c'est qu'il exclut les femmes racisées. Il leur impose des normes, il leur impose une manière de voir, il est impérialiste, il exclut aussi les femmes LGBTQI, les femmes pauvres et les femmes qui ne sont pas valides. Voilà, alors, il faut aussi distinguer, ce qui... là où nous on se place, on est dans une position où on critique beaucoup le féminisme blanc, mais il faut distinguer le féminisme blanc des femmes blanches qui sont féministes aussi, mais qui sont
intersectionnelles,
voilà. Nous on est dans quelque chose qui est intersectionnel et c'est le point sur lequel on est. C'est le point sur lequel qui n'est pas négociable en fait.
Oui, il y a un truc de classe aussi, je trouve. Par exemple, il y a beaucoup un truc qui revient, c'est depuis que les femmes ont eu le droit de travailler dans ce mouvement des années 70. Alors que si tu replaces dans un contexte de classe, déjà rien qu'au niveau métropolitain, il y a plein de femmes qui avaient le droit de travailler et qui travaillaient depuis tout le temps. Et en plus, si tu regardes par rapport à l'esclavage, c'est limite cynique de dire depuis que les femmes ont eu le droit de travailler, quoi. Enfin, ça, faudrait vraiment que ça disparaisse.
C'est que le problème du féminisme blanc, au fond, c'est que sa manière dont elle utilise les mots, au final, c'est que la manière dont elle utilise les mots, elle ne pense pas à ce que ces mots englobent et tout. Parce que ce qu'on reproche, par exemple, au féminisme blanc, c'est tout le temps de récupérer les mots, de ne jamais penser à ce qu'il y a derrière. Par exemple, quand on dit souvent, quand il y a des annonces, qu'elles disent les femmes. Pour elles, c'est généralisé et tout. Toutes les femmes sont identiques, il n'y a pas des nuances. C'est pour ça qu'on dit que nous, quand vous dites les femmes, on sait pertinemment que, entre parenthèses, mettez femmes blanches, ce sera plus simple. Comme ça, tout le monde aura compris. Et en fait, alors moi, je viens d'une société coloniale, je viens de Martinique, et j'ai compris que pendant des années, je serais forcé de travailler. Et que finalement, on me dit que je dois tout le temps travailler, que je dois travailler dans les champs, que je dois travailler à nettoyer et tout, que je dois travailler pour gagner mon pain parce que le travail c'est la santé ou une connerie comme ça. Sauf que je suis là, mais finalement, je prends pas de vacances. Je suis là, en fait, on m'a réduit à cause de ma couleur de peau, de mon statut social, de mon nom, etc., à être la personne qui travaille tout le temps. Et on dit, pas de problème, t'es dans la souffrance, on va venir te libérer. Et moi je suis là, non, je suis une personne assez intelligente pour... On est des gens assez intelligents pour se libérer tout seul, quoi. Et en fait, c'est ça, en fait. À cause de notre apparence, de nos statuts, les féministes blanches, surtout au niveau des États-Unis et ensuite en Amérique du Sud, pensent qu'on est des pauvres petites choses qu'on doit protéger. Et ça a été le cas, soit on était un danger, soit on est des choses qu'on doit protéger, etc. On est l'enfant, on est la personne infantilisée, on n'est pas finalement l'être humain intelligent. Et surtout, faut pas oublier, c'est aussi une question d'image, parce que le féminisme mainstream, c'est un jeu de l'image, image surtout capitaliste américaine. Les femmes blanches aux États-Unis ont soutenu le Ku Klux Klan. Elles étaient même dans le Ku Klux Klan, certaines suffragettes étaient avec le Ku Klux Klan. Par exemple, on n'a qu'à voir le film La naissance d'une nation, qui est sûrement l'un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie. Ce truc, en fait, a aidé le Ku Klux Klan, en fait, à reprendre du peps, parce qu'il se servait des femmes blanches. Les femmes blanches se servaient de ça et tout, pour accuser les noirs. Surtout les hommes noirs, de violer les femmes blanches et tout. Et en fait, à cause de ça, ça a amplifié le système carcéral qu'a mis les minorités, surtout latinos, noirs et foncés de peau en général, en prison. Et les femmes blanches n'ont absolument rien fait contre, bien au contraire, c'était d'accord.
Pour compléter, en fait, je vais dire que... que le problème des féministes blanches, c'est peut-être pas les mots, enfin c'est au-delà des mots, c'est le fait qu'elles continuent à s'inscrire dans une sorte de colonialité, en fait. C'est qu'elles sont blanches dans le sens social, c'est-à-dire qu'elles sont très empreintes des représentations coloniales. Par exemple, si on reprend Macron, les propos de Macron sur les femmes africaines, quelles sont les féministes blanches qui se sont insurgées, qui ont écrit une tribune? Aucune. La seule personne qui a écrit une tribune, à ma connaissance, c'est Françoise Vergès, qui, de toutes les façons, sur ces questions-là, a des positionnements déjà très clairs depuis longtemps. Donc, c'est pas tant que les mots, c'est que si elles se permettent d'utiliser ces mots-là sans les questionner, c'est bien parce qu'elles sont dans une vision coloniale, parce que leurs ascendantes, avant elles, ont contribué à la conquête coloniale. Et donc, il fallait, en fait... projeter une certaine image des femmes noires pour pouvoir valoriser les femmes blanches. Et donc, voilà, on est toujours dans cette histoire où on va aller sauver les femmes noires ou arabes, parce que les blanches sont de toutes les façons supérieures aux femmes racisées, bien que considérées parfois comme inférieures aux hommes blancs. Donc voilà, il y a cette hiérarchie-là aussi qui se met en place.
On voit aussi l'apparition d'un fémonationalisme qui contamine beaucoup le féminisme en ce moment en France, à propos du débat qui est devenu le débat qui fâche sur le port du voile. Rokhaya Diallo a d'ailleurs publié une tribune sur le port du voile, le fait que le port du voile n'est pas un frein au féminisme. Et on voit que c'est quand même une pensée qui est propagée même dans les plus hautes sphères de l'État, comme quand on voit Madame Laurence Rossignol, qui est une ancienne ministre du droit des femmes et des familles, qui a dit qu'il y avait des nègres afro-américains qui étaient pour l'esclavage, en voulant comparer avec les femmes qui font le choix de porter le voile. Il y a vraiment un gros souci en France de prendre pour prétexte la laïcité pour priver de leur agentivité les femmes musulmanes qui font le choix de porter le voile et qui le revendiquent et qui vivent bien avec. Voilà.
Et maintenant, une petite chanson de Black Barbie, plus de temps à perdre.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 avec Lilith, Martine et les autres. Ce soir, on invite deux collectifs, les Déracinés et Sochi, un collectif d'afroféministes. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc on a vu en fait que dans les luttes en fait décoloniales, postcoloniales, indépendantistes, la plupart des femmes racisées étaient invisibilisées, niées. On va écouter une petite virgule du documentaire donc, de Camille Mauduèche, une Martiniquaise, qui s'appelle Chalvet, la conquête de la dignité.
Février 74, un mois et une année noire gravée dans l'histoire de la Martinique. Le 13 13 février 1974, la Martinique est paralysée par des grèves. Dans le monde agricole, les négociations entre patrons et ouvriers concernant les conditions de travail et l'augmentation des salaires n'ont alors rien donné. La colère s'étend dans plusieurs communes de l'île, surtout dans le nord Atlantique. C'est dans ce climat tendu de contestation que le 14 février, les forces de l'ordre se mobilisent pour faire barrage aux nombreux grévistes qui marchent en direction du plateau de Chalvet à Basse-Pointe. Des coups de feu, de nombreux blessés et un amateur, cet homme, Serié Ilmani, victime de la fusillade, il décède sur le coup. Deux jours plus tard, il sera enterré au Lorrain et nombreux sont ceux qui auront fait le déplacement pour honorer sa mémoire. On y entend alors « Ilmani, nous te vengerons » ou encore « Abat la répression coloniale, songez l'Algérie, songez l'Indochine, Matnik, Lévé ». Et quelques heures avant l'enterrement, le corps torturé d'un jeune homme de 19 ans, Georges Marie-Louise, est découvert sur une plage de Basse-Pointe, non loin de Chalvet. Très vite, des témoignages laissent entendre que Marie-Louise figurait dans un groupe impliqué dans un affrontement avec les gendarmes et d'autres prétendent qu'il aurait été arrêté sans raison. Deux morts qui mettent un terme à cette grève par la signature du protocole de fin de conflit le 19 février. Mais les circonstances de la mort de Marie-Louise n'ont jamais été élucidées et jusqu'en octobre, plusieurs ouvriers agricoles et militants indépendantistes seront également arrêtés.
En février 1974, comme l'a dit le documentaire, il y a eu des révoltes agricoles, principalement dans le nord de l'île de Martinique. Pourquoi ? Parce que dans le nord de l'île, il y a les champs de canne. Les champs de canne qui... Alors, on a deux types de champs, champs de canne et champs de banane. Et les champs de canne sont souvent à... autour des habitations. Qu'est-ce que c'est une habitation ? C'est là où il y a une grande distillerie de rhum avec, bien sûr, les grandes maisons où il y avait les propriétaires. Et donc, le rhum, en fait, c'est quasiment la principale économie de l'île. Genre, on a plus d'une dizaine de distilleries dans chaque grande commune de l'île. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas encore les très grands tracteurs et tout pour couper le rhum. Donc, il fallait aller dans les champs de canne et tout, couper avec une machette, sous le soleil de 30 degrés, etc., etc. Donc, un boulot difficile. Et je sais parce que j'ai dû faire ce boulot et tout pour avoir de l'argent de la vacance. Donc, c'est un cauchemar. Et les salaires étaient anormalement bas. Pourquoi ? Parce qu'il y avait encore... Bah, on, même si l'esclavage était fini, les gens des dom-toms étaient quand même traités comme des travailleurs, mais on va le dire très sincèrement, c'est des esclaves. Les salaires, ils étaient miséreux, ça servait pas... C'était pas suffisant pour vivre. Donc en fait, dans toute l'île, et dans toute, quasiment tous les corps de métier, il y a eu des grèves, et principalement dans les corps de métier agricoles. Sauf qu'en février 1974, quand les gens ils sont allés vers Chalvet, qui est une habitation coloniale, enfin une ancienne habitation coloniale, une distillerie, ils ont, il y avait la gendarmerie en face, la gendarmerie qui est principalement composée de gendarmes métropolitains, et ils avaient amené la gendarmerie et des hélicoptères, et ils avaient donc tiré en fait sur la foule. C'était genre c'était la première fois depuis très très longtemps en fait qu'ils avaient tiré sur la foule. Donc les ouvriers agricoles, ils ont dû s'enfuir parmi ils ont dû s'enfuir dans les champs et dans les rivières aux alentours finalement pour survivre. Donc il y en a eu un qui est mort, et comme on l'a dit, un est mort de ses blessures dues à la fusillade, et on a retrouvé un autre jeune ouvrier agricole mystérieusement mort sur une plage. Donc, on suppose que c'est la gendarmerie qui l'a tabassé, mais on n'a pas de preuves, et genre plus... Donc 74, c'est quoi, plus de 40 ans après? Plus de 40 ans après, personne ne sait.
Et aujourd'hui, dans ce documentaire, en fait, on a énormément de femmes. Nombreuses sont les femmes qui restituent, qui parlent en fait de cette grève qu'il y a eu pendant tout le février 1974.
Oui, puisque les femmes étaient aussi dans les champs, pour couper la canne, on avait besoin de mains, on faisait pas la distinction. Donc les femmes ont été extrêmement utiles pendant la guerre de février 1974. Il y a par exemple une femme qui s'appelle Raymonde, qui a aidé en fait les jeunes ouvriers agricoles et tout à s'enfuir de la gendarmerie, leur expliquant où il fallait passer pour ne pas que les gendarmes les retrouvent. Parce que dans le Lorrain au nord, on a aussi quelques champs d'ananas, et les ananas, alors il y a des gens qui pensent que les ananas poussent dans des arbres, les ananas ne poussent pas dans des arbres, les ananas poussent au ras du sol. Il y a des gens qui pensent que ça existe les ananasiers, je suis désolé mais non. Et donc les champs d'ananas, donc, vu qu'il n'y a pas d'arbres et tout, vu qu'il y avait des hélicoptères, on pouvait les retrouver, leur expliquer qu'il fallait passer par les forêts tropicales pour ne pas que les hélicoptères les trouvent en fait. Et on les voit dans le film, on les voit sur les photos d'archives, on les voit parler, on les voit militer, on les voit organiser. Et en fait, ça fait écho aux anciennes luttes abolitionnistes qu'on appelle la lutte des nègres-marrons, en français les marrons. Les marrons, en fait, sont les esclaves qui se sont libérés et tout. Et il y avait la plupart des grandes figures étaient Solitude en Guadeloupe et Lumina Sophie en Martinique, qui sont toutes les deux des femmes marrons. Beaucoup de femmes marrons ont été des figures très importantes de la libération. Et dans les grèves aussi, aux Antilles et tout, les femmes dans la société antillaise sont très importantes.
Donc on vous incite vivement à regarder le film de Camille Mauduèche, Chalvet.
Now we pray that she will forgive us. Amatina, oh, who you have been breaking down the door. Tina was no deceiver, still were inclined to believe her. Amatina, oh, who you have been breaking down the door.
Amatina.
Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. On est toujours en présence de Sochi et des Déracinés. Merci à vous d'être là ce soir. On va finir l'émission sur une lutte un peu plus locale. On va écouter un extrait enregistré lors de l'anniversaire des 30 ans de la marche de l'égalité contre le racisme, qui partit de Marseille pour arriver à Paris en 1983. Cette marche emblématique des luttes postcoloniales en France trouve ses origines aux Minguettes, avec des émeutes et une grève de la faim en 1981, notamment, donc les Minguettes, on le rappelle, c'est un quartier de Vénissieux en banlieue lyonnaise. La personne qu'on va écouter témoigner, c'est Djida Tazdaït. Dans les années 1980, elle était membre du collectif Zamat Banlieue, ensuite qui est devenu la Jalbe, constituée en grande partie de meufs ayant grandi dans les cités de transit de la banlieue lyonnaise. On vous souhaite une bonne écoute et on vous retrouve après.
Alors vraiment, vraiment les dernières.
C'est pas une question, c'est un témoignage. Parce que je m'appelle Djida Tazdaït et les marcheurs font partie de mes amis de longue date. Et j'ai refusé de faire la marche. Toumi, que je suis allée visiter sur son lit d'hôpital, m'a proposé de la faire, hein, a même insisté. Et à l'époque, je fais partie d'un mouvement qu'on appelle le mouvement des jeunes arabes de Lyon et banlieue, considéré à l'époque comme radical, je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas un collectif de gens actifs sur la justice discriminatoire, où nous accompagnons les familles des victimes dans les procédures d'instruction pour qu'ils soient reconnus par la justice et que les meurtriers, les criminels racistes ne sortent pas libres et sans sanction. On a compté comme ça des quinzaines de meurtres et d'instructions suivies où on est arrivé tout de même, à force de ténacité, de connaissance de cette institution, de travailler avec les procureurs, avec les avocats, à arriver à faire condamner les criminels racistes jusqu'à perpétuité et actes de barbarie dans les derniers dossiers que nous avons pu traiter. Ça, c'était déjà avant les années 80. Et nous avions pied à pied, nous utilisions les moyens que la République donnait, donc la loi, la justice, les marches locales, les rapports de force de rue. Mais il n'y avait pas, en effet, les élus. À l'époque, aucun élu venait faire ses condoléances à une famille de victimes, par exemple. Ni de gauche, ni de droite. Et c'est vrai que qu'un cas, dans nos manifestations, il y avait quelques blancs, comme Christian, puisqu'il dépasse toujours de deux têtes, donc on ne voyait que lui. Mais aussi Jean Costil, évidemment, mais quelques autres amis mais rare, tout de même très très rare à l'époque. Et lorsqu'il y a eu les émeutes, je vous passe les détails, puisque de toute façon les marcheurs sont là pour témoigner et vous parlerez avec eux. Lorsqu'ils ont fait la grève de la faim, nous les avons soutenus. Nous avions occupé par exemple France 3 pour que les obliger à venir faire un documentaire sur nos amis des Malguettes, puisqu'ils ne voulaient pas en parler. Ainsi, voilà, rapport de force, on savait utiliser les outils, on s'inscrivait comme des Français à part entière sans aucun doute. J'étais contente dans le témoignage sonore de tout à l'heure, une jeune fille de la nouvelle génération, puisque nous sommes des vieux maintenant. Nous avions 20 ans, 25 ans. Nous sommes maintenant des grands-pères, hein, Tommy et d'autres là dans la salle sont grands-parents. Donc on n'est plus des jeunes, on est des vieux. On est donc là, on entend parler dans le son, la troisième, quatrième génération après nous. Donc il faut remettre aussi les choses dans le contexte. Pour dire, quand on était dans ce contexte où il y avait de l'indifférence totale, on ne peut même pas dire du racisme, c'est l'indifférence et le mépris total, cinglant, sonore, c'était le mur du son. Et donc là-dessus, nous, on tape avec le marteau et on faisait des petits trous, des petits trous. Et lorsque donc, il y a eu les émeutes et que Tommy a été touché et qu'il a failli mourir et qu'on a eu peur pour lui, nous, on était dans cette mentalité de dire nous devons être indépendants, autonomes, responsables, prendre nos initiatives, on peut compter sur personne. Mais sans aucun doute, comme la jeune fille de 19 ans tout à l'heure dans le son, on ne doutait pas de notre francité, ni de notre citoyenneté. Et c'est vrai qu'on paraissait, pour la génération que nous étions, comme des gens arrogants, une jeunesse arrogante, un peu provocatrice. Simplement parce qu'on était jeunes, rebelles, et on revendiquait des droits qui nous étaient dus sans aucun doute, à l'époque déjà.
Et on est toujours dans l'émission Lilith, Martine et les autres. On vient d'écouter donc Djida Tazdaït qui nous parlait un peu du contexte militant et militante aussi des années 80. Donc, comme elle dit aujourd'hui, ce sont des vieux. Et donc, les collectifs Sochi et Déraciné, c'est un peu l'avant-garde, peut-être. À quel point vous vous sentez proche, loin de ce qu'elle partage comme expérience politique?
Alors pour Sochi, je pense que, enfin, c'est pour nous en tout cas, c'est assez clair que c'est pas, enfin, on s'inscrit complètement dans plusieurs dimensions de cette lutte-là, notamment la lutte contre les discriminations systémiques, évidemment. Le fait, par exemple, ce qui est intéressant, c'est quand elle dit que c'était un mouvement de jeunes qui était considéré comme radical. Radical pourquoi ? Radical parce que c'était des personnes qui avaient décidé de s'autodéterminer et de mettre en œuvre leur propre agenda. Là, c'est la même chose, en fait, quand on voit aujourd'hui que des femmes noires qui décident de s'auto-organiser au sein d'un collectif subissent en fait la répression institutionnelle, on peut citer Moissy, qui a subi vraiment avec le festival Alliance à Pau une campagne de dénigrement qui s'inscrit en droit de ligne en fait de la vision coloniale, c'est-à-dire que les populations racisées noires par exemple ont toujours été délégitimées quand elles décidaient de s'auto-organiser pour imposer leur expérience, pour travailler sur leur propre trajectoire. Donc on s'inscrit aussi dans cette lutte-là parce qu'aujourd'hui encore, on a besoin de mettre en place un rapport de force avec les institutions et les autorités pour exister, enfin pas pour exister, en tout cas pour leur imposer notre existence, parce qu'on existe, nous on sait qu'on existe, mais pour qu'ils tiennent compte un minimum de nos existences, on est obligé d'imposer un rapport de force. Donc là, il y a toujours une filiation dans la question de se construire de manière indépendante, autonome. C'est indispensable pour nous, comme c'était indispensable pour ces groupes-là à cette époque-là. En fait, on peut résumer ça en une phrase que disait de mémoire, je crois que c'est Nelson Mandela, il disait « ce qui se fait pour nous, sans nous, est contre nous ». Donc nous, on a décidé de faire pour nous ce qu'on considère bon pour nous. Voilà, on n'a pas besoin des autres pour le faire.
« For us, by us », pour dire comme les Américains. Ce qui fait peur, ouais, c'est qu'on est dans un antiracisme qui est politique. Et qui prend les devants, qui impose son agenda par rapport, pour recontextualiser avec le festival Nyan Tsapo, qui est le premier festival afroféministe européen organisé par le collectif afroféministe Moissy, qui a eu lieu l'été dernier, en 2017, et qui avait été fustigé par la mairesse de Paris, rapport au fait qu'il y a eu des ateliers organisés en non-mixité dédiés aux femmes noires et afrodescendantes. Et que ces ateliers-là remettent en question en fait l'espèce de conception omniprésente des blancs dans tous les espaces militants. Et donc voilà, cet antiracisme politique fait peur, et c'est pour ça que on le qualifie aussi de radical, parce que on est beaucoup dans l'action.
Très bien. Eh bien, on vous remercie. On remercie à vous toutes. Vos collectifs sont la continuité donc des mouvements de femmes immigrées, de femmes racisées. Votre existence prouve qu'au-delà des années, nos luttes n'ont pas pu être invisibilisées. Et bien au contraire, comme l'a dit Gida, elles sont encore plus renforcées.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Au revoir.